Chapitre 15. Explication. Dès que le jour se leva, une foule curieuse de lire le redoutable édit, si longtemps annoncé, se dirigea vers le forum. À la vue de la planche nue, une clameur générale s'éleva. Les uns admiraient le courage des chrétiens, regardés généralement comme des lâches. Les autres s'indignaient de leur acte audacieux. Ceux-ci se moquaient des hommes qui avaient été préposés à la garde de l'édit, et d'autres se révoltaient à la pensée que la distraction promise ce jour-là serait retardée. Dans la matinée, toutes les places où le monde se réunissait chaque jour étaient couvertes de groupes dont les conversations roulaient toutes sur ce sujet. Au grand terme d'Antonin, un groupe de visiteurs accoutumés s'entretenait de l'événement du jour. C'était l'avocat Scaurus, Proculus, Fulvius et plusieurs autres. Au milieu d'eux, le philosophe Calpurnius feuilletait des livres poudreux et paraissait très absorbé dans son occupation. « Quelle étrange aventure est arrivée à l'édit ! » s'écria un des promeneurs. « Dites plutôt quel indigne outrage contre les divins empereurs !» répondit Fulvius. « Comment donc a-t-on pu l'accomplir ? » demanda un troisième. « N'avez-vous pas entendu dire, reprit Proculus, que le Dace en faction au Putéal a été trouvé mort et percé de 27 coups de poignard, dont 19 suffisaient chacun pour déterminer la mort ?»« Non, ce n'est pas exact, interrompit Scaurus. Cet événement n'a pas été accompli par violence, mais par un pouvoir magique. Deux femmes se sont présentées devant le soldat, qui saisit sa lance et en transperça une des deux femmes, mais la lance alla se piquer dans le sol à quelque distance de là, après avoir passé au travers du corps de l'inconnu, sans lui faire le moindre mal. Le Dace frappa alors l'autre femme de son épée, mais chacun de ses coups semblait atteindre un marbre. Le fantôme lança à la sentinelle une pincée de poudre et il s'envola dans l'air. On le retrouva encore endormi, ce matin, sur le toit de la basilique émilienne. Un de mes amis, qui passait par là de grand matin, a vu l'échelle qui lui a servi à descendre. « Quel événement surprenant !» s'écrièrent un grand nombre de promeneurs. « Ces chrétiens doivent être des gens bien extraordinaires. »« Je ne crois pas un mot de cela, » fit observer Proculus. « La magie n'a pas un pouvoir si étendu, et je ne vois pas pourquoi ces misérables chrétiens seraient plus puissants que ceux qui valent mieux qu'eux. »« Allons, Calpurnius, » continua-t-il, « mettez de côté ce vieux livre et répondez à mes questions. » Dans une seule soirée, j'en ai plus appris de vous sur les chrétiens que je n'en avais su pendant toute ma vie. Quelle science et quelle mémoire extraordinaire il vous faut avoir pour vous rappeler si exactement la généalogie et l'histoire de ce peuple barbare. Voyons, ce que Corus vient de nous raconter, est-il possible, oui ou non ? Calpurnius se leva et, d'un ton emphatique, s'exprima en ces termes. Il n'y a pas de raison pour déclarer la chose impossible, car le pouvoir de la magie n'a point de borne. Pour préparer une poudre qui fasse voler un homme dans l'air, il s'agit seulement de trouver des herbes dans lesquelles l'air entre plus que les trois autres éléments. Selon Pythagore, les pois ou les fèves sont de cette nature. Ainsi, lorsqu'on les cueille au moment où le soleil est dans le signe de la balance, dont la nature est alors de balancer en l'air toutes les choses pesantes, à l'instant de la conjonction de l'astre avec Mercure, aux pieds ailés comme vous savez, si cette propriété des pois est fortifiée encore par des mots mystérieux prononcés par un habile magicien, nul doute que ce légume réduit en poudre dans un mortier fait d'un aérolithe ou d'une pierre qui est retombée sur la terre après s'être envolée dans les nuages, nul doute qu'une préparation de cette nature ne puisse aider et même forcer une personne à voler dans les airs. Vous n'ignorez pas que c'est à travers les nuages que voyagent les sorcières de Thessalie, quand, pour leur plaisir, elles se rendent d'un point à un autre. Comment pourraient-elles s'envoler ainsi, sinon par le pouvoir d'un charme ? C'est ainsi que procèdent les chrétiens. Vous vous souvenez, excellent Proculus, que dans l'occasion à laquelle vous faites allusion et où j'eus l'honneur de vous entretenir sur ce sujet, c'était, si je me souviens bien, à la table du divin Fabius. Je rappelais que cette secte venait de Chaldée, où les arts occultes sont connus et fameux. Nous avons une preuve de leur puissance dans l'histoire même. Il est certain qu'un certain Simon, qu'on appelle quelquefois Simon-Pierre, et d'autres fois aussi Simon le magicien, vint à Rome et, en public, s'enleva dans les airs. Mais tout à coup, ses charmes s'échappèrent de sa ceinture, il tomba et se cassa les deux jambes. C'est pour cette raison qu'on le crucifia la tête en bas. « Tous les chrétiens sont donc nécessairement sorciers ?» demanda Scaurus. « Nécessairement. La magie est une des parties de leur superstition. Ils croient que leurs prêtres ont un pouvoir souverain sur la nature. Ainsi, par exemple, ils pensent qu'en baignant les corps de leurs adeptes dans l'eau, leurs âmes acquerront par là même des dons extraordinaires, et fussent-ils des esclaves, une supériorité sur leurs maîtres et sur les divins empereurs eux-mêmes. « Il y a là de quoi faire trembler !» crièrent tous les assistants. « Bien plus, résuma Calpurnius, nous savons tous qu'en déchirant l'édit des divins empereurs, ils ont commis un crime affreux. Eh bien, supposons même, que les dieux nous en gardent, que leur attentat soit plus grand encore, et qu'ils attaquent la vie même de l'empereur, les chrétiens croiraient qu'il leur suffirait d'aller avouer ce crime épouvantable à un de leurs prêtres pour obtenir leur pardon, et si le prêtre le leur accorde, ils demeurent sans reproche. « C'est épouvantable !» dirent en chœur tous les assistants. « Une telle doctrine, dit Scaurus, est incompatible avec la sûreté de l'État. Un homme pensant qu'un autre homme peut lui pardonner ses crimes est capable d'en commettre. » Et leurs dangereuses doctrines ont provoqué sans doute le terrible édit qu'on promulgue contre eux, observa Fulvius. Après ce que Calpurnius vient de nous apprendre sur ces hommes redoutables, rien ne peut être trop sévère pour nous préserver d'eux. Fulvius, en disant ces paroles, n'avait cessé de regarder malicieusement Sébastien, qui était arrivé pendant la conversation. Le jeune oriental s'adressa enfin à lui. « Vous pensez sans doute comme nous, Sébastien ?» lui demanda-t-il. « Je pense, répondit celui-ci avec calme, que si les chrétiens sont tels que Calpurnius les peint, d'infâmes sorciers, ils sont dignes d'être voués à l'extermination qu'on prépare contre eux. Mais dans ce cas même, je voudrais leur réserver une chance de salut. « Quelle est cette chance ? » demanda sournoisement Fulvius. « Je voudrais que ceux-là seuls, qui sont innocents des crimes qu'on attribue aux chrétiens, puissent les combattre. Dans ce cas, à aucun de ceux qui ne se pourraient montrer purs d'adultère, de fraude, de concussion, de vol, d'ivrognerie, à aucun de ceux qui se sont montrés indignes époux, mauvais pères, enfants ingrats, voleurs, scélérats, il ne serait permis de lever la main contre les chrétiens, car on ne peut les accuser de ces vices honteux. » Fulvius tressaillit à cette énumération de vices, et il semblait plus humilié encore sous le regard pur et indigné de Sébastien. Au mot « voleur », il frémit. L'officier l'avait-il donc vu ramasser la riche écharpe dans la maison de Fabius ? Dans tous les cas, l'antipathie qu'il avait conçue pour le noble tribun à leur première rencontre se changea en haine à leur seconde entrevue. Or, la haine, dans ce cœur pervers, aspirait à s'écrire avec du sang. Sébastien s'éloigna et ses pensées se formulèrent dans une prière. « Que c'est long, ô Seigneur ! Que le temps tarde à venir ! Comment pouvons-nous espérer d'entreprendre la conversion d'un grand nombre à la vérité, encore moins la conversion de ce vaste empire, lorsque nous trouvons des hommes honnêtes et instruits, eux-mêmes disposés à croire les calomnies qu'on invente contre nous, réunissant les fables et les fictions débitées d'âge en âge et refusant même d'étudier nos doctrines parce que leurs esprits sont remplis de la pensée que ces doctrines sont fausses et méprisables et que ces esprits superbes refusent de s'abaisser jusqu'à nous. » Il parlait haut, se croyant seul, quand une douce voix lui répondit tout à coup. « Bon jeune homme qui parlez ainsi, qui que vous soyez, il me semble reconnaître votre voix. Souvenez-vous que le Fils de Dieu, lorsqu'il voulut rendre à la lumière l'œil obscur de l'aveugle-né, le recouvrit seulement d'un peu de boue, qui, dans la main d'un autre, aurait aveuglé celui qui voyait. Soyons donc comme la poussière sous ses pieds, si nous voulons devenir ses instruments pour faire briller sa lumière aux yeux des âmes. Demeurons encore méprisés un peu de temps, soyons patients, et de nos cendres mêmes jaillira peut-être l'étincelle de l'éternelle lumière. Cécilia, je vous remercie de votre douce et juste remontrance. Où donc voulez-vous si gaiement le premier jour du danger ? Ne savez-vous pas qu'on m'a nommé guide du cimetière de Calistus ? Je vais prendre possession de mon emploi. prier afin que je sois la première fleur cueillie dans la moisson qui s'apprête. » Et elle s'éloigna en chantant gaiement. Mais Sébastien lui demanda de s'arrêter encore un moment.